120 morts et plus de 200 rescapés, c'est le bilan du naufrage le week-end dernier du bateau MV Mutambala sur le lac Tanganyika au Katanga. Selon les officiels, la surcharge et le mauvais temps figurent parmi les causes de cet accident. Comment analyser ce nouveau naufrage et que faut-il pour prévenir ce drame? Ce genre de drame, c'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois Al Kitenge, analyste économique. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Il va nous rejoindre dans un petit moment. Lui, c'est Gabriel Lumumba Owanga, vice-président de l'Association des armateurs du lac Tanganyika. Il est aussi le propriétaire du bateau qui a fait naufrage. Également, Israël Moussala, analyste économique et politique. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans votre émission.
Adieu. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouvernement congolais confirme le bilan d'une centaine de morts et plus de 200 rescapés dans le naufrage du bateau MV Mutambala au Katanga le week-end dernier. Le ministre des Transports en mission à Moba dans cette partie de la province affirme que 40 des rescapés sont internés à Kirungu et Moba Port. Justin Kalumba a annoncé la tenue dans les prochains jours d'un procès contre l'équipage du bateau et le commissaire maritime Denis Maeo.
Le ministre de Transport et Voies de Communication a confirmé ce lundi à Moba 120 morts, dont 3 enfants, et 221 rescapés. Kalumba Mwanangongo a déclaré qu'il a été dépêché sur place par le gouvernement central afin de consoler les familles des victimes, reconforter les rescapés et chercher à établir les responsabilités. Selon les participants à cette réunion, le ministre a annoncé l'arrestation du commissaire maritime de Moba et 8 membres de l'équipage du bateau. Un procès en chambre foraine sera organisé dans un bref délai à Moba, a-t-il indiqué. Mais sur place à Moba, certains habitants contestent le bilan avancé par les autorités. Pour eux, il y aurait eu, à bord du bateau MV Mutambala, plus de 300 passagers. Ainsi, déclare-t-il, le bilan des morts et des disparus pourrait être revu à la hausse, car les recherches se poursuivent tout le long du lac Tanganyika, entre Moba et Kalemi. Lubumbashi, Denise Maeo, Radio Okapi.
Merci Denise Maeo. La RDC n'en est pas à son premier naufrage sur ses cours d'eau. Berry Franklin Luchaka fait le point pour l'année 2014. On l'écoute. Je disais que la RDC n'en est pas à son premier naufrage sur ses cours d'eau. Nous allons suivre le point que nous fait Berry Franklin Luchaka pour l'année 2014.
Plus de 200 morts pour 6 cas de naufrage ont été enregistrés depuis le 1er janvier de cette année. 3 sur le lac Tanganyika vers le sud Kivu, 1 sur le lac Albert en province orientale, 1 sur la rivière Luanga Chimu au Kasaï occidental et 1 sur le fleuve Congo ici à Kinshasa. Le premier naufrage intervient au mois d'août dernier suite à un vent violent sur le lac Albert qui a fait 11 morts et 9 rescapés. L'embarcation naviguait entre Muganga et Chomia en Ituri en province orientale et n'avait pas de manifeste. Un mois plus tard, le 27 septembre, c'est l'embarcation du bateau Maman Wunja qui fera naufrage sur le lac Tanganyika au sud Kivu de suite de surcharge. Les femmes et les enfants étaient nombreux dans cette embarcation, mais le bilan des morts n'est toujours pas disponible à ce jour. 5 jours avant, la surcharge était encore à la base de la disparition d'une trentaine de passagers après le naufrage d'une pirogue motorisée sur la rivière Luanga Chimu à hauteur de la cité de Kamako à 150 km au sud de Chikapa au Kasaï occidental. Au mois de novembre, ce sont 5 militaires du 1004e bataillon FARDC qui ont perdu la vie après le naufrage sur le lac Tanganyika à Karamba, au sud Kivu, suite à un petit vent. Ils revenaient d'une mission de service et 3 militaires étaient rescapés. Enfin, en ce mois de décembre, 7 barges ont coulé ici à Kinshasa après les vents violents qui ont soufflé dans la ville, n'ayant fait aucune victime selon les autorités.
Merci Berry, nous n'aurons personne du ministère des Transports puisque la délégation du ministère qui est revenue ce soir à Kinshasa dit réserver la primeur de ce rapport au gouvernement. Gabriel Lumumba, bonsoir, vous êtes en ligne?
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de l'association des armateurs du lac Tanganyika. Vous êtes le propriétaire du bateau qui a fait naufrage. Pour commencer, selon vous, quelles sont les causes de ces naufrages?
Bon, comme je l'avais énuméré bien avant, les causes de ce
charge était le surchargement des personnes et des marchandises.
Surchargement des personnes et des marchandises. Votre bateau avait quelle capacité et combien de personnes ont été embarquées?
Bon, normalement, normalement, le billet qui a été présenté par, c'était de 145 personnes. Donc, la liste qui a été présentée au niveau du commissariat maritime, c'était de 145 personnes. Tandis que ce que j'ai appris là, vraiment, c'était un peu énorme.
Et qu'est-ce que vous avez appris?
Et ce qu'on m'avait appris, que j'ai eu sur la liste ici, bon, je peux dire, si vous pouvez me reposer la question, s'il vous plaît.
Oui, vous dites que sur le manifeste qui vous a été remis, il y avait 145 personnes, mais ce que vous avez appris que le nombre des passagers était plus élevé. C'était combien, par exemple?
C'est ça, nous sommes en train de les écouter à la radio, comme vous aussi vous l'avez annoncé là. Bon, c'est que le nombre qu'on a repêché, c'était de 221 personnes et 9 membres d'équipage.
Alors, vous êtes vice-président de l'association des armateurs du lac Tanganyika, propriétaire d'un bateau. Lorsque votre bateau embarque les gens, vous n'êtes pas vous-même sur place? Comment ça se passe?
Non, je n'étais pas sur place. Vous savez que les embarquements se fait par nos représentants, qui sont les capitaines de bateau. Ce sont ces gens-là qui connaissent un peu les réglementations sur l'arrivage des marchandises et des passagers dans les bateaux.
Vous parlez de 145 personnes qui étaient sur le manifeste que vous avez vu. Je vous ai posé la question précédemment. Votre bateau a une capacité de combien de personnes? Peut embarquer combien de personnes normalement?
Normalement, notre bateau pourrait embarquer au moins 200 personnes. 200 personnes que nous avons. 70 places en haut et 130 places en bas.
Et alors là, il y a des témoins qui parleraient de près de 350 personnes qui auraient embarqué.
Oui, c'est pour cela même nous sommes en train de déplorer cet surchargement en personnes et en marchandises. Chose qui aurait pu être évitée si une bonne réglementation avait pu être observée par les services attitrés, en l'occurrence le commissariat lacustre, qui du moins il demeure toujours le commandant de port. Et sans oublier aussi que le capitaine aussi en est responsable, parce que c'est quand même lui qui connaît les règles élémentaires d'arrivage des marchandises à bord du bateau.
Alors, on se souvient que dernièrement, le ministère des Transports, parmi ses exigences, avait demandé à tous les armateurs que tous les passagers puissent être dotés des gilets de sauvetage. Est-ce que ça a été fait dans le cas de votre bateau?
Oui. D'ailleurs, avec l'effort que consentait le ministère, ils ont ordonné à tous les bateaux d'avoir un nombre suffisant de gilets de sauvetage. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu parvenir à sauver les 221. Bon, moi, j'ai un nombre de 231, 9 membres d'équipage.
Alors, quand on parle de surchargement, est-ce que c'est la première fois que ça arrive et pourquoi les membres d'équipage, sous votre direction, font ce genre de pratiques?
Bon, pour mieux comprendre, donc, il faut quand même, il faut comprendre que le dispositif du port de Moba. Le port de Moba est un simple jeté. Donc, les passagers entraient comme ils voulaient. Et puis, les entrées dans les bateaux étaient désordonnées. Et vous voyez qu'il y a toujours ce cas de surchargement là-bas. Mais, je pense Moi, je me suis, comme vraiment, j'aimais protéger la vie humaine. C'est pourquoi j'ai fabriqué un portail pour réglementer les sorties et les entrées dans ces ports-là. Mais malheureusement, n'est que les portails-là, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on les réglemente, et il arrive parfois les passagers qui n'ont même pas de billets, ils les acceptent d'entrer pourvu qu'ils donnent quelque chose. C'est ça le plus grand problème.
Et donc, en réalité, les passagers qui figurent sur le manifeste ne sont pas ceux qu'on embarque réellement.
C'est vrai que les passagers qui étaient figurés sur le manifeste, ce n'est pas les passagers qu'on embarque normalement. Donc, les autres entrées, puisque vous voyez, et ça faisait presque une semaine qu'il n'y avait pas de bateau sur Moba, et puis les passagers étaient trop nombreux. Maintenant, pour nous, on pensait, d'ailleurs, nous sommes en train de regretter. Bon, comment les services de l'État se sont comportés, parce que nous avons une portail que nous avons fabriqué là-bas, et normalement, les gens allaient entrer avec une discipline. Mais fort malheureusement, il y a eu cet surchargement. Mais le capitaine, si je jette la responsabilité au capitaine aussi, c'est parce que lui, connaissant son bateau très bien, il n'a pas annulé le voyage. Et le commissaire aussi, si connaissant que le bateau était trop surchargé, il n'allait pas donner l'autorisation de sortie pour ces bateaux-là.
Merci Gabriel Lumumba, on vous garde encore dans cette émission. Al Kitenge, vous êtes analyste économique, vous venez de suivre l'armateur Gabriel Lumumba, également vice-président de l'association des armateurs du lac Tanganyika. Comment vous analysez ce nouveau drame?
Ce nouveau drame à la Hirong est exactement à la lumière de l'état réel de notre pays. Ça dénote de la précarité sévère dans laquelle vivent nos populations, le désespoir le plus saillant dans lequel vivent nos populations, au point de penser que leur vie ne vaut absolument rien, au point de prendre des risques inconsidérés et terriblement irresponsables. Mais la deuxième lecture que l'on peut faire de cette situation, c'est cette désarticulation de l'État. Très malheureusement, dans ce genre de situation, on voit le gouvernement central. Non, le gouvernement central agit par délégation au travers de l'administration. Cet accident et la manière dont il se passe démontrent de manière assez claire qu'il y a une désarticulation sévère de l'administration. L'administration ne fonctionne pas du tout, parce qu'il est impossible d'avoir un ministre à tous les coups, à tous les endroits. Il est important que les différents organes de l'État agissent. Et la description que ce monsieur faisait de ce qui s'est passé, c'est l'absence totale d'autorité et donc d'exercice de pouvoir public. Et je pense que il faut reconnaître que ce que nous sommes en train de vivre dans ce cas particulier, et d'ailleurs on l'a vécu à plusieurs reprises l'année dernière et cette année encore, c'est exactement ça la photographie de l'état de la nation. Il faut faire très attention. Il ne faut pas regarder le boulevard du 30 juin et penser que le pays est comme ça. Notre situation est une situation de précarité. Et quand les institutions internationales disent de nous que nous sommes un pays fragile, ça, c'est l'expression même de la fragilité. Moi, je pense qu'il est important qu'on se rende compte qu'autant qu'on a chassé les esprits de mort sur les routes de la ville de Kinshasa, on doit chasser les esprits de mort sur le fleuve, sur les lacs et en l'air. Et il est donc important qu'un programme similaire soit mis en place pour être en mesure de dupliquer l'expérience de plus en plus réussie de la route dans la grande ville de Kinshasa, qui est en train de se dupliquer bientôt dans certaines provinces de l'Est de la République, en se disant une chose fondamentale. Chaque chose a son prix. On ne peut pas espérer transporter des gens comme des animaux, comme des biens, à moins cher, en prenant des risques inconsidérés. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre de très loin, un jour on le vivra sur la traversée vers Brazzaville. Les unités qui traversent ne répondent à aucune norme. Le nombre de personnes qui montent sur ces unités est extrêmement élevé et incontrôlé. Nous faisons comme si nous ne voyons pas tout ça, mais le jour où les gens vont mourir, nous allons tous nous réveiller et commencer à chercher un bouc émissaire. Ce n'est pas responsable. Chaque chose a un prix, y compris la vie humaine. Chaque chose a une qualité minimum et des normes auxquelles ça doit répondre. Et il est important que nous devenions extrêmement disciplinés et que ceux qui ne peuvent pas entendre la raison soient sanctionnés. Et je pense que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, des centaines de morts qui sont évitables, devraient nous interpeller à un très haut niveau, qui dépasse le secteur de transport lui-même, il dépasse le secteur de la navigation lacustre, il dépasse le cas d'accident que nous avons aujourd'hui. C'est la capacité à arriver à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, il faudrait qu'on se pose la question de comment nous sommes organisés, de quels moyens nous disposons pour être en mesure de vivre ensemble.
Alors, Al-Kitenge, il y a également ce problème de divergence entre le propriétaire et le capitaine. Le propriétaire qui a prévu des gilets de sauvetage pour la, selon la capacité du bateau, et le capitaine sur terrain qui pense qu'il faudrait prendre beaucoup plus de gens pour se faire un peu plus d'argent.
Alain, le propriétaire est un opérateur économique et un investisseur, sa responsabilité s'arrête là. En termes opérationnels, il y a des gens qui sont formés pour être en mesure de travailler. Et ils sont censés travailler dans les normes, et les textes légaux leur donnent des responsabilités. Il faut qu'ils en répondent. Il y a bien entendu des responsables au niveau de la gestion du bateau lui-même, mais il y a également les responsables au niveau de la gestion publique, les gens qui sont censés donner des autorisations, des gens qui sont censés gérer les espaces. Mais là, ça pose l'autre question. Dans quel état d'infrastructure, d'équipement sommes-nous dans nos différents ports, y compris les ports de Kinshasa? Nous sommes dans un état de sauvagerie totale. Les gens font comme ils peuvent, comme ils veulent. Allez sur les différents beaches qui sont le long du fleuve et vous allez voir ce qui est en train de se passer. À un moment donné ou à un autre, il faut professionnaliser les métiers afin de les rendre attractifs pour les investisseurs. Et ceci, là où l'État ne peut pas investir directement, qu'il aille en partenariat public-privé ou en privatisation et en concession directe. On ne peut pas continuer à faire les choses par hasard. Regardez ce qui s'est passé dans l'air. On a connu un certain nombre de morts de manière successive. Ça a attiré tellement notre attention qu'aujourd'hui, on a pris des dispositions extrêmement radicales, et il faut pour cela féliciter le gouvernement, pour remettre un minimum de discipline pour que nous ne puissions pas être en mesure d'assister à des accidents aussi stupides que ce que nous avons connu par le passé. La même discipline est en train d'être portée sur la place de la route, essentiellement dans les grandes villes, essentiellement dans la ville de Kinshasa. Il faut de même être en mesure de renvoyer ça sur les autres modes de transport, mais également sur les autres modes de travail. Nous avons aujourd'hui tous les accidents que nous avons dans le secteur artisanal des mines ou dans certaines exploitations. Vous vous rendez bien compte, c'est toujours la négligence, le manque et l'absence de considération des questions de sécurité et d'hygiène et d'environnement dans le milieu de travail, mais également le manque de normes et d'inspection. Et je pense qu'il est important qu'on se rende compte qu'une république, une nation comme la nôtre, a besoin d'énormément de moyens pour être en mesure d'être opérée. Et le drame, c'est que ce qui est en train d'arriver est l'expression de la petitesse des moyens qui sont mis à la disposition de l'État.
Israël Moutala, bonsoir, vous êtes en ligne?
Bonsoir Alain.
Voilà, vous êtes analyste économique et politique, vous venez de suivre Al-Kitenge ainsi que Gabriel Lumumba. Quelle est votre analyse à vous?
Bon, mon analyse s'aligne tout naturellement sur le diagnostic posé par Al-Kitenge. Le naufrage qu'il y a eu est symptomatique d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance de l'appareil étatique. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, avec la modicité des moyens de l'État, multiplier les institutions au lieu d'abord d'asseoir l'administration de l'État qui, à la base, moi, aujourd'hui, je ne comprends pas, par exemple, le fait qu'on puisse trouver opportun aujourd'hui d'installer le Conseil économique et social. C'est constitutionnel, mais c'est budgétivore, mais ce n'est pas avec de telles institutions, aujourd'hui, qu'on va résoudre les problèmes les plus cruciaux de la nation. À savoir d'abord que, à la base, que les autorités chargées de faire respecter la loi aient les moyens de leur politique. Vous avez vu, dans ce cas de naufrage regrettable, il y a un problème d'infrastructure. Donc, on peut accéder au port de Moba par plusieurs voies. Il n'y a pas un enclos, il n'y a pas une salle d'attente, bref, il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir les potentiels voyageurs, il n'y a pas d'entrepôt sérieux pour entreposer les marchandises, pour les peser et pour les acheminer dans le bateau. Vous avez aussi ici une question de cupidité de la part des représentants de l'État qui sont censés appliquer la loi. Il y a un manifeste qui dit qu'il y a à peu près 145 personnes, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité. Comment faire respecter justement la loi qui veut que les bateaux ne soient pas surchargés? C'est toute la problématique. Vous avez des gens qui sont censés appliquer la loi, mais qui ne le font pas. Et ces gens-là-bas, souvent, n'encourent aucune sanction. Ici, la sanction interviendra parce qu'il y a eu naufrage. Ça veut dire que le monsieur, le commissaire fluvial ou lacustre qui était censé surveiller l'application de la loi, ne l'a pas fait et ne l'a jamais fait d'ailleurs. Ça veut dire que les autres fois, il a échappé à la sanction de la loi parce qu'il n'y avait pas naufrage. Aujourd'hui, parce qu'il y a naufrage, il sera sanctionné. Ce n'est pas comme ça que tourne un État sain. Un État sain, même quand il n'y a pas naufrage, il faut qu'il y ait des inspections régulières et ponctuelles pour surprendre les agents de l'État qui sont en indélicatesse avec la loi. Mais là, c'est une autre paire de manches. Pour faire des missions d'inspection, les inspecteurs fluviaux n'ont pas le moyen. L'État a très peu de moyens. Mais les très peu de moyens que l'État a, il les dilapide encore en multipliant des institutions comme le Conseil économique et social. Et en multipliant des postes gouvernementaux pour caser des régimes politiques.
Israël?
Tout ça. Oui.
Israël, et donc, comme vous le disiez, vous allez dans le même sens que Al, qui pensait qu'il s'agit là de la désarticulation de l'État congolais.
Oui, il s'agit bel et bien de la désarticulation de l'État congolais. Ça veut dire que, quittant les slogans « révolution de la modernité », je suis d'accord, le Congo est vaste. Revenons aux fondamentaux. Faisons en sorte que nos administrations du sommet à la base soit efficiente. C'est ça la grande problématique. Que chaque homme dans un port ait un rôle précis et qu'il applique la loi avec rigueur. On n'a pas encore atteint ce niveau et ce dans tout le domaine. Dans tous les domaines, il y a des désordres terribles. Et vous allez voir par exemple que même dans le secteur minier, les inspecteurs environnementaux n'ont pas les moyens d'aller faire des inspections dans les mines. Ça, c'est quel est le cas.
Alors,
justement, donc, il y a un problème de moyens, il y a un problème d'affectation des peu de moyens qu'il y a.
Israël, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemie au Katanga.
C'est Mathieu, je vous appelle depuis Kalemie. Nous avons appris sur le son de la radio de la paix que l'MP Mutambala avait à son bord 350 passagers à son île sur les lacs Tanganyika. Et la population de Kalemie se demande pourquoi est-ce que les autorités maritimes ne veulent pas respecter l'ordre du ministre Gisèle qui avait dit lors de son passage ici chez nous, je cite, tous les bateaux flottant sur le lac Tanganyika doivent avoir les nombres de sauvetages qui correspondent à leur capacité. Et là-bas, nous comprenons que les autorités ont aussi se limitent simplement à donner des ordres sans faire aucun suivi.
Réaction Israël Moutala.
Oui, c'est ce que je dis. Il y a un problème de la faiblesse de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est pas seulement faire la guerre, c'est pas seulement la police, c'est pas les services de sécurité, armée et consorts. Non, l'autorité de l'État, c'est faire en sorte que moi, Israël Moutala, je suis à Moba. Comment je fais pour voyager de Moba à Kalemie par voie lacustre en toute sécurité? C'est à l'État de m'assurer cette sécurité. Les impôts que nous payons servent justement à ce que l'État veille à ce que la loi soit appliquée. Parce que si la loi n'est pas appliquée, nous allons tous courir à la catastrophe. J'ai grandi à Kalemie, c'est ma ville, j'ai pris mal parce que je me rappelle que dans les années 80, il y avait aussi un grand naufrage. Et à l'époque, j'avais suivi les mêmes discours, plus jamais ça, ces morts ne sont pas morts pour rien. Mais aujourd'hui, vous voyez encore que la même réalité, 20 ans, 30 ans plus tard, nous rattrape. Parce que l'État n'est pas encore efficient. Et merci. Pourquoi il n'est pas efficient? Parce qu'il est distrait. Il est dans le tape à l'œil. Il faut faire du travail sérieux, sans bruit, pour justement faire que nous voyageons en sécurité.
Merci Israël Moutala. Gabriel Lumumba, est-ce que votre bateau, c'est Maître Patilendo de Kinshasa qui pose cette question, est-ce que votre bateau avait l'habitude de faire le contrôle technique?
Oui, Monsieur Guy Martin. Donc, mon bateau avait l'habitude de faire le contrôle technique et d'ailleurs, et nous avons eu des injonctions auprès du ministère des Transports et Communications qui nous demandait de compléter tous les dispositifs de sécurité. Et je voulais bien préciser que mon bateau avait justement 320 gilets de sauvetage et 22 bouées de sauvetage. Et les bouées de sauvetage, un bouée pourrait prendre au moins 3 personnes. Donc le bateau était aussi doté de beaucoup de dispositifs tels que les GPS, les radars et la communication Touraya. Donc il y avait aussi des équipements anti-incendie, tout ça. Donc le ministère des Transports nous avait bien donné des consignes comme quoi tout bateau doit avoir ces dispositifs. Et je pense qu'on les respectait. Bon, le problème qui est là et qui a causé cet naufrage, c'était les entrées simultanées ou en catastrophe des passagers. Donc, il n'y avait pas une bonne réglementation sur les entrées des passagers. C'est ce qui a causé cela.
Alors, vous dites que le bateau était équipé, vous parlez des GPS, gilets, bouées de sauvetage, mais est-ce que le personnel, lui, était formé?
Moi, je pense, notre personnel... D'ailleurs, le capitaine, pour avoir le permis de naviguer, il doit passer par une formation. Et tous les matelots, ils passent par des formations. Et moi-même, je me bats chaque fois avec des formations, avec des séminaires. Donc, d'ailleurs, moi, je ne pensais pas que ça pourrait arriver chez moi. Vraiment, comprenez mon émotion. Je le regrette profondément.
Voilà. Gabriel Lumumba, est-ce que votre bateau était assuré? C'est encore Maître Patilendo qui pose la question.
Oui, mon bateau était assuré. Et son assurance était en cours. Le bateau était assuré, je l'assure.
Et donc, on peut espérer que les victimes pourraient être indemnisées?
Je l'espère bien, oui.
Voilà, nous allons prendre pour vous, Gabriel Lumumba. Cette réaction, elle nous vient d'où? Elle nous vient de Mouenéditou au Kasaï Oriental.
Clovis Kalolo Kalolo depuis Mouenéditou dans le Kasaï Oriental. C'est une situation qui vient alarmer encore le pays qui passe un moment difficile par rapport aux personnes qui meurent à travers le territoire national. Je pense qu'il faut réglementer le domaine des transports avec des lois propres, suivi d'une police de contrôle pour tout récalcitrant, et chercher aussi à éradiquer la corruption qui caractérise les agents commis à ce contrôle au moment de l'embarquement des dédits bateaux.
Alors là, Clovis Kalolo, depuis Mouenéditou, fait déjà ses propositions pour que ce genre de drame ne se répète plus, Gabriel Lumumba. Pensez-vous que la réglementation est connue et qu'elle est suivie?
Bon, je pense que la réglementation est connue et c'est la suivi qui cause aussi problème, ou le respect des réglementations qui cause problème. Donc, bon, d'ailleurs, il faut quand même de respecter les règles. Et ils sont censés connaître bien les règles de la navigation, plus que les autres.
Alors, pour vous, en tant que vice-président de l'Association des armateurs du lac Tanganyika, quelles sont vos propositions pour éviter à l'avenir ce genre de drame?
Bon, notre proposition, je pense, c'est question tout simplement de continuer à réglementer les entrées dans les ports et essayer un peu de respecter, puisque les arrêtés interdits, donc les normes des embarquements des voyageurs.
Hein? Donc c'est simplement...
Ainsi que des marchandises, bien sûr.
Donc respecter les normes, réglementer les entrées au niveau des ports. Al Kitenge, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Dalla depuis Kolwezi au Katanga, je pense que le transport en général et celui par eau et en particulier reste un secteur où le contrôle est de loin satisfaisant. Tant que seul le paiement de frais pour l'octroi de la licence d'exploitation sera la plus grande condition, le pire ne sera jamais évité. Tout en encourageant le gouvernement pour ses efforts d'information lorsqu'il y a de problèmes, les mêmes efforts, à notre avis, devraient être orientés vers un management dans ce secteur. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.
On est déjà dans la deuxième partie, Al Kitenge. Comment vous analysez la proposition de professeur Ignace Ndala?
Je salue le professeur Ignace Ndala et je dis que ce qu'il dit est vrai, mais ce n'est pas vrai que pour le secteur des transports, c'est vrai pour l'entièreté de la République. Il faut reconnaître que il y a un véritable besoin de décentraliser et effectivement décentraliser et repasser la responsabilité le plus près possible de la base. Parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que autant les capitaines privatisent le bateau, en fait, ils en font un fonds de commerce pour eux-mêmes, ils mettent 300 personnes, ils n'inscrivent sur le manifeste que 145 parce que c'est ça qu'ils vont donner comme argent aux propriétaires, autant les fonctionnaires de l'État privatisent leur poste. Ils font des choses pour se payer et très malheureusement, ils mettent la République en danger. Quand un grave cas comme celui-ci arrive, ça dépasse leur responsabilité, ça engage l'État. Mais au quotidien, c'est comme ça qu'ils se conduisent. Mais en fait, est-ce que nous sommes capables de les condamner? Ces fonctionnaires à 50 ou à 60 ou à 70 dollars, en fait, à un moment donné, ils sont dans une situation où, pour survivre, ils sont prêts à commettre des crimes complètement irresponsables. Parce qu'aujourd'hui, on peut appeler ça crime, parce qu'on a 100, 200 personnes qui meurent, et qui meurent simplement parce que quelqu'un a été cupide. Mais très malheureusement, le décor est très planté pour que, aussi bien dans ce port particulier que dans d'autres circonstances, ces conditions soient répétées et les conséquences soient les mêmes. Il est important qu'on prenne connaissance et conscience des mots que nous utilisons. Quand on dit qu'on est un pays fragile, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de tourner de manière normale. Regardez les difficultés que nous avons à déjà protéger notre territoire. C'est les mêmes difficultés que nous avons à administrer l'entièreté du territoire et c'est pour ça que les gens nous mettent en danger en nous menaçant de balkanisation parce qu'on a l'impression que les moyens financiers et humains dont nous disposons ne sont pas en mesure de pouvoir assurer un management concurrent au niveau de la République. Je pense qu'il est important qu'au-delà de toute tendance politique, on s'aperçoive que notre pays est très 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 pauvre. Il est tellement pauvre qu'il n'a pas les moyens pour être en mesure d'être conduit correctement. Malgré la bonne volonté et les performances individuelles que l'on peut reconnaître ça et là, il est important que notre pays comprenne la nécessité de se réinventer. Nous avons des atouts pour nous réinventer et devenir un pays normal.
Alors, dans votre première intervention, vous parliez de professionnaliser les métiers et d'encourager le partenariat public-privé. Est-ce que ça peut marcher dans ce secteur?
Ça va marcher. Regardez ce qui se passe dans les routes de Kinshasa. On a eu les bus de Transco qui ont été un investissement de l'État. C'était un coup de poing pour être en mesure d'arrêter les esprits de mort. Le deuxième palier que le gouvernement met en place, c'est justement le financement des privés pour qu'ils s'inscrivent dans une mission publique. Le transport public est une mission publique concédée. En ce moment-là, nous allons avec les moyens des privés pour être en mesure d'assurer la deuxième partie du volet de transport en commun de qualité dans une ville comme celle-ci. Chaque jour qui passait, on avait des accidents sur nos routes. C'est des choses qui sont véritablement estompées et je pense que de la même manière, si nous privatisons ou nous allons en partenariat public privé sur les différents ports, il y aura des gens qui vont investir comme on investit dans les tours de bâtiments dans la ville de Kinshasa pour que nous ayons des unités viables. Vous savez, chaque chose, même le déchet, si vous en faites un business, les gens peuvent investir. Je peux vous garantir que l'économie verte dans les pays occidentaux est une des économies qui attire le plus d'argent parce qu'il y a de la réglementation qui crée un fonds de commerce. Il faut créer avec nos unités et nos entités des fonds de commerce pour que les gens puissent investir et qu'on revienne à la normale. L'autre chose que j'ai envie de dire, Alain, c'est que chaque chose a un prix. À vouloir faire moins cher, on expose des vies humaines, on les expose de manière dangereuse. Il faut donc qu'on en fasse un véritable business, qu'il soit rentable, que le parcours coûte un prix bien déterminé, que les gens soient en mesure de pouvoir payer pour voyager dans des conditions de sécurité. À vouloir faire moins cher, on a des stades où les gens entrent et quand ils veulent sortir, ils sont morts. Et c'est quelque chose de complètement inacceptable. C'est simplement lié à la qualité des biens et des infrastructures. Et la qualité, moins chère bien entendu, nous expose.
Israël Moutala, professionnaliser les métiers, encourager les partenariats public-privé parmi les solutions, cela ne ferait-il pas appel à un vaste programme au niveau du gouvernement à cet effet?
Bon, moi je pense d'abord que faisons d'abord respecter la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. Bon, faut pas nous lancer dans quelque chose de plus ambitieux quand nous ne sommes pas d'abord en mesure d'appliquer ce qui existe. Je ne vois pas en quoi est-ce que la loi actuelle est mauvaise. La problématique se situe au niveau de son application. Donc, il n'y a pas de moyens humains, de moyens financiers, de moyens techniques pour faire appliquer la loi. Mais tout autour de ça, justement, toute une réflexion doit être faite par rapport aux infrastructures. Il faut des investissements pour sécuriser tous les ports. Il faut des investissements pour le balisage. Il faut des moyens pour avoir des contrôles techniques plus fins, plus sérieux. Je me rappelle toujours parce que mon père dirigeait le département de transport fluvial à la SNCC et on immobilisait des grands bateaux dans les cales sèches pour qu'on les rende viables. Et pour que le bateau sorte, il était soumis à plusieurs tests dans les installations de la SNCC à l'époque à Calémie. Donc il y avait quand même, à l'époque, il y avait quand même assez une certaine rigueur qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc il y a aussi une question de la formation. Et dans tout ça, c'est la question aussi de la sanction qui doit être là. Il faut que tous les secteurs de la vie nationale s'emboîtent. Il faut que la justice joue son rôle, il faut que les assurances jouent aussi les leurs. Pour revenir à l'assurance, par exemple, ici, pour l'indemnisation n'est pas automatique. Parce qu'il faut peut-être se rendre compte que dans le cas du bateau naufragé ici, l'armateur, ou plutôt le capitaine, sont en faute. Parce que quand vous avez une police d'assurance avec les assureurs, il y a des clauses. Il ne faudrait pas que l'assuré soit en faute. Parce que si l'assuré est en faute, en faisant des surcharges et tout ça, il délie l'assureur. Donc, avoir une police d'assurance ne veut pas dire être indemnisé automatiquement. Donc, c'est un contrat entre l'assureur et l'assuré. Il y a des clauses qu'il faut respecter. Parce qu'ici, dans les commerces des corps mortels, on le voit même avec les transports en commun ici, quand quelqu'un a une assurance, il croit qu'il peut se permettre n'importe quelle infraction, n'importe quel accident parce qu'il a une assurance. Donc, il faut beaucoup travailler aussi dans la sensibilisation. Mais pour moi, c'est l'autorité de l'État qui doit être rétablie dans tous les secteurs. Avant que nous vivions plus loin, accomplissons d'abord ce qui est faisable. Nous devons appliquer à la virgule près les lois existantes.
Israël, vous parlez de sanctions et de formation. La tenue du procès dont a parlé et qu'a annoncé le ministre pourrait-elle décourager les récalcitrants?
Moi, je pense d'abord qu'il faut qu'on mette la main, sur les armateurs ou les capitaines de bateaux ou les commissaires fluviaux ou lacustres qui ne respectent pas la loi avant qu'il y ait naufrage. Parce qu'il y aura toujours de malins qui vont trafiquer les manifestes et qui ne seront pas pris. On met d'abord la main sur les gens qui trafiquent chaque jour les manifestes, mais comme il n'y a pas de sinistre, ils s'en tirent à bon frais. Et donc moi, je pense que le vrai travail doit commencer là-bas. Parce qu'ici, le message c'est quoi? Quand il y a sinistre, il y aura sanction. Mais avant, le message d'être lancé, c'est que avant qu'il y ait sinistre, avant qu'il y ait catastrophe, il faut que la loi passe par rapport aux commissaires fluviaux, par rapport aux armateurs et par rapport aux capitaines qui ne respectent pas la loi.
Merci. Gabriel Lumumba, Israël Moutala insiste aussi sur la sensibilisation. Est-ce qu'au niveau de l'association des armateurs du lac Tanganyika, vous sensibilisez suffisamment les capitaines et les matelots et tout le personnel navigant?
Je pense que la sensibilisation, nous l'avons déjà commencé, mais auparavant, ça ne se faisait pas. Mais avec l'insistance du ministre des Transports, on avait commencé à sensibiliser les capitaines et les armateurs. D'ailleurs, nous avons conçu un règlement de transport qui pourra réglementer quand même, qui allait peut-être nous aider à respecter les passagers et leurs biens. Bon, nous pensons que dans ce point-là, nous sommes en train de passer à l'action. Et je pense que c'est quelque chose qui est en cours.
Alors, vous-même, vous aviez dit que vous avez incité les membres de l'équipage de votre bateau à plusieurs formations. C'est quel type de formation?
Donc, moi, j'avais la formation, je l'ai formé sur les règlements tout d'abord des transports. Je le forme sur les règlements des transports. Et les arrimages des bateaux, puisque je suis aussi constructeur de bateaux, j'essaye de leur montrer les conséquences qui peuvent être sur les stabilités des bateaux, tout ça. Donc, il y a le règlement là où nous avons insisté beaucoup.
Alors, l'émission touche déjà à sa fin. Gabriel Lumumba, Ouanga, vous avez dit regretter ce drame qui vient endeuiller encore la nation congolaise. En guise de conclusion pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Comment vous entrevoyez l'avenir de votre métier?
Bon, nous pensons que parfois, les drames pareils donnent l'expérience. Et d'abord, j'allais présenter mes condoléances dans les familles éprouvées. Et nous pensons que, comme les autres les ont indiqué, bon, concernant la technique, je n'ai pas de doute. Je suis à ma 25e année d'expérience dans le domaine. Et je pense que nous allons essayer d'améliorer, tant soit peu, les conditions de navigabilité.
Merci beaucoup, Gabriel Lumumba Ouanga. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Association des armateurs du lac Tanganyika, également propriétaire du bateau qui a fait naufrage. Alkitenge, comment entrevoir l'avenir? Il faut refonder l'État congolais, mais l'avenir dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je pense d'abord qu'il faut dire la vérité aux Congolais. Nous venons de très loin. Les dégâts que nous avons commis dans ce pays ont désarticulé de manière complète le pays. On est en train de remonter la pente. Ça va prendre du temps. Ce que nous voyons dans le secteur du transport avec les accidents que nous voyons, c'est la partie visible de la réalité de notre pays. Il est important qu'on se rende compte qu'il faut revoir ce pays différemment. Il faut utiliser nos avantages comparatifs pour être en mesure d'inventer un pays qui va normalement et rapidement vers la situation plus ou moins normale. On ne peut pas continuer à avoir un pays qui dépend à 100% de Kinshasa en tout et pour tout et espérer être efficace. Nous avons 2 345 000 km². Il est important que la décentralisation devienne effective et que la responsabilité aille chez les gens là où ils sont afin qu'ils répondent de leurs actes. Et je voudrais aussi insister sur une chose. L'informel est très dangereux. Il est donc important de professionnaliser chaque chose.
Merci.
Avoir un port, avoir une unité flottante, ça doit être un métier.
Voilà, Israël Moutala, conclusion.
Bon, ma conclusion, c'est que pour nous développer, il faut que la circulation des personnes et de leurs biens soit garantie sur l'ensemble de l'espace national. Et pour y parvenir, il faut des bateaux sains. Il faut de lacs et de rivières et de fleuves balisés. Il faut des commissaires fluviaux honnêtes, compétents et bien formés. Il faut des armateurs et de capitaines aussi qui ont une Merci. Certaine moralité et qui aident l'État à accomplir sa tâche.
Merci.
Voilà un peu ma conclusion.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guimate Kelinkouté, Berry Luchaka, Sylvain Matundu, Bob Landou qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Sous la supervision de Julien Nyamouigny, coordination et présentation, Alain Roumouchin, vous nous avez suivis. Merci de votre attention. Au revoir.